Non, ça
va.
Ça va.
Moi, il faut que je parte pas trop tard quand même. Pas après 3h30.
Oui. Ça fait une heure.
Ce soir.
Non, non, vous pouvez vous aller.
Oui. Attends,
oui, c'est bien. Merci.
Je m'excuse la
prière. Non, bah, je vous en prie.
Je vous pose ici votre. Ah oui, merci, ouais. Madame. Non, merci.
Merci. Non,
non. Oh là là, il pleut.
Ah, il pleut, oui, ça va. Ah, horriblement, c'est une bonne pluie d'orage.
Non, si, j'ai.
Tenez, tenez, tenez.
En vous demandant si vous trouvez que les méthodes et les programmes ont beaucoup changé depuis que vous-même vous étiez en classe.
Oui. Alors, en ce qui concerne les lettres, je commence d'abord par ce que je connais bien, puis ensuite on peut généraliser un peu si vous voulez, parce qu'on connaît quand même bien sa spécialité. En gros, moi je dirais que les programmes ont peu changé. Les méthodes, un peu plus.
Oui.
Si vous voulez. Enfin, le cas des lettres, de l'enseignement des lettres, est un peu à part, dans la mesure où le programme n'a pas une grande importance. À la limite, il n'y a pas de programme. Dans la mesure où vous enseignez le français, où vous enseignez la littérature, bien sûr, en gros, nous enseignons surtout la littérature du XVIe siècle ou XXe siècle, mais le choix des auteurs reste libre, finalement. Les professeurs de français ont une très grande liberté. Hein. Ça, oui, oui. Je crois, il y a récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, des professeurs de Tchécoslovaquie qui sont venus en France. Et je crois que c'est une des choses qui les a le plus étonnés, c'est que finalement, le professeur de français choisit ce qu'il veut. Il n'y a pas de liste publiée. Un professeur qui aime Racine fait Racine, quelqu'un qui n'aime pas beaucoup Voltaire, bah, ne fait pas Voltaire parce qu'il l'aime pas et c'est tout. Enfin,
ça dure plus longtemps ou seulement.
Ah ben ça, en gros, ça va quand même de la seconde à la terminale, ce que je vous dis là. Et ça a toujours été un peu comme ça.
Ben, les programmes étaient peut-être quand même un peu plus stricts il y a 5-6 ans.
On essayait d'en faire
le plus possible.
Le plus possible, c'est-à-dire de donner une vue générale de la littérature du XVIe siècle. En gros, c'est-à-dire en commençant par la Pléiade, Ronsard, Dubellet, etc., jusqu'aux auteurs contemporains, le tout étalé sur 3 ans, seconde, première, terminale. Et alors, on s'est aperçu que parfois c'était un peu superficiel, parce que ça demandait à aller très vite, et puis que tout voir rapidement, c'était moins intéressant. Alors maintenant, on s'attache plus souvent à un auteur, à une œuvre, que l'on fait à fond, quitte à en négliger d'autres. De toute façon, on ne peut plus... étant donné quand même l'abondance des textes et de la matière, on ne peut plus prétendre tout voir. Et d'ailleurs, il n'est pas intéressant de tout voir.
Mais... Non, monsieur.
Alors, vous voyez, le programme, il est difficile de dire qu'il a évolué dans la mesure où, en français, à proprement parler, il n'y a jamais eu vraiment de programme précis.
Oui. Alors ça, c'est peut-être quand même un problème des lettres. Ah, en histoire et en géographie, on a un programme tout de même beaucoup plus strict, avec un certain nombre en géographie, par exemple, de pays à étudier, ou bien en histoire, une période bien déterminée. En première, on fera l'histoire du monde de 1850 à 1914, par exemple. Seulement, depuis également 5 ou 6 ans, on peut vraiment dire que le choix d'un certain nombre de questions dans ces programmes est acquis à peu près par tout le monde. C'est-à-dire qu'on estime qu'on ne peut plus faire un survol général, mais au contraire, on fait quelques questions en profondeur, étant donné que le cadre est acquis.
Oui, oui.
Oui.
Mais alors, question d'examen, il n'y a quand même pas beaucoup de choix, je crois, pour les élèves. Enfin,
alors, aux examens.
En histoire et géographie, on donne, c'est un oral.
Oui.
Alors on donne la liste des questions au baccalauréat, par exemple. Les élèves qui passent le baccalauréat en ce moment ont la liste des questions traitées en classe.
Ah oui.
Ce qui fait qu'ils sont interrogés sur ces questions traitées.
Oui.
Étant bien évident qu'il faut quand même en avoir traité un certain nombre, sinon... Hein, c'est sûr.
Oui,
Mais enfin, il est évident que quand on a une période très large, on peut pas tout, on n'a plus l'ambition de tout traiter. Oui. Alors qu'autrefois, on avait cette ambition. Voilà. Quand moi, j'ai passé le baccalauréat, il fallait tout avoir vu.
Et il n'y avait pas de liste.
Donc on pouvait être interrogé vraiment.
Il y avait le programme en gros, bah, le programme était dans le manuel d'ailleurs, il y avait tout le manuel, et on pouvait tomber aussi bien sur la Pologne que sur.
Sur toute autre chose, oui. Qui était du programme. Non. Alors que maintenant on présente la liste des questions faites en classe par le professeur durant l'année, et on admet fort bien que cette liste ne soit qu'une partie de ce programme. C'est récent.
Oui.
Ça fait 3 ans.
Oui, c'est ça.
Oui.
Disons qu'en général, il y a quand même une évolution qui se dessine, moins d'encyclopédisme, comme on dit.
Oui, ça je pense. C'est-à-dire
qu'il n'est plus question de tout voir, et simplement un choix. Et alors très souvent, ce choix, maintenant, c'est le professeur qui le fait. C'est-à-dire que le programme sert de cadre, si vous voulez, à peu près dans toutes les disciplines, il y a effectivement un programme. Mais le programme ne sert plus que de cadre, que d'indication, et à l'intérieur de ce programme, on peut choisir. Et même à longueur, on peut, dans certaines disciplines, en sortir. En lettres, on peut en sortir. Dans d'autres disciplines, non. On fait le choix à l'intérieur du programme. Enfin, ça, c'est pas grave.
Maintenant, je pense que ça n'est pas vrai en sciences, par exemple.
Oui.
Alors, en sciences, ils sont beaucoup plus tenus par le programme.
Il est évident qu'une classe de mathématiques en seconde doit avoir vu un certain nombre de choses pour qu'en première, on puisse passer à autre chose.
Oui.
Alors ça, je pense que c'est complètement différent.
C'est aussi.
Ah oui, absolument.
Oui, mais alors là, ça, on assiste à une différence.
Oui. De plus en plus nette, oui.
Qui va en se creusant entre l'enseignement des lettres et l'enseignement des sciences.
Ah oui.
L'enseignement des sciences restant un peu encyclopédique, il faut bien le dire, par exemple en sciences naturelles, en physique-chimie aussi, il faut quand même avoir vu beaucoup de choses.
Pas mal.
Alors, moins en maths. Alors qu'en lettres, on peut choisir davantage. Les exigences ne sont pas les mêmes. Et les exigences à l'entrée en faculté non plus d'ailleurs. Les professeurs de faculté en sciences sont très exigeants maintenant sur le niveau et les connaissances de leurs candidats. En lettres, on est beaucoup plus souple.
Mmh.
On s'attachera davantage aux aptitudes du candidat qu'à ses connaissances.
Mmh. Alors, à part la question de programme, si on peut dire, si vous croyez que vous enseignez de la même manière dont vous étiez enseigné.
Oui. Non. Non, je pense pas. Maintenant, c'est difficile parce que moi je vous dis non parce que je ne le pense pas et je m'efforce de ne pas le faire maintenant. Vous savez, en ce moment, il est très difficile de parler en général de l'enseignement en France parce qu'il est en pleine mutation.
Oui.
Et c'est un peu la bagarre, finalement, il faut bien le dire.
Oui.
Mais non, pour une raison simple, c'est que les élèves eux-mêmes ne supporteraient pas qu'on les enseigne comme on enseignait il y a 20 ou 30 ans. Enfin, je crois que c'est quand même très net.
Et dans un domaine comme l'histoire et la géographie, par exemple, il est évident qu'on emploie beaucoup plus l'audiovisuel qu'on ne l'employait quand moi-même j'étais au lycée.
Oui,
on ne fait pas de géographie sans projection de diapositive, on ne fait plus d'histoire sans explication de texte, ce qui n'existait pas autrefois. Alors ça, c'est déjà quelque chose de fondamentalement différent.
Oui, on fait beaucoup moins appel par cœur.
Oui. Il était, par exemple, en histoire, moi, il m'arrive fréquemment de faire un devoir et de donner le livre au candidat. Et de noter, de faire un devoir qui comptera pour le passage à la classe, par exemple, supérieure, mais de ne pas exiger d'eux de savoir par cœur un certain nombre de choses. Je leur donne le livre, mais de bâtir, de construire, de réfléchir sur un certain nombre de choses qu'ils ont dans leur livre. Or, ça, nous ne le faisions pas. On nous demandait beaucoup plus d'apprendre.
Ah oui. Oui, d'apprendre par cœur. C'est vraiment quand même la base de l'enseignement. Il fallait apprendre.
Peut-être qu'aujourd'hui, on ne demande plus assez d'ailleurs.
Vous croyez ?
Ah, peut-être, oui.
Bon, il y a parfois des trous.
Il y a parfois des trous énormes.
Parfois des trous énormes.
Seulement, c'est les deux plateaux de la balance. Il faut le temps qu'elle se.
Oui, oui.
On va peut-être trop loin maintenant dans un autre sens.
Oui, d'accord. Et il y a quel genre de trous qui existent ?
Bah, il est, enfin, vous connaissez bien, je sais pas, en histoire, par exemple.
Il y a des périodes qu'ils ignorent totalement.
Oui.
Des périodes ou des noms, par exemple.
Des noms qui semblent vraiment évidents, qu'ils ignorent totalement.
Ça a commencé par Hitler.
Oui, oui.
Ça arrive.
Ça arrive.
C'est quand même fâcheux.
Oui, oui.
Enfin, c'est quand même moins grave. que de savoir par cœur
sans avoir compris.
Oui. Donc je crois que la tendance à l'heure actuelle quand même essaie davantage de faire comprendre plutôt que de faire apprendre. Oui. Je crois que c'est quand même maintenant, petit à petit, ça va entrer dans les mœurs. Mais c'est pas partout pareil. Certains que ça dépend des professeurs, ça dépend des lycées, oui. Ça dépend de l'idée qu'on se fait de la chose.
Vous croyez que le fait que c'est de la source est très bien,
oui.
ça y fait beaucoup.
Ah oui, non.
Ça peut contribuer quand même. Bah si, il y a le tiers-temps, par exemple, qui fonctionne dans les
oui,
classes.
Oui, d'accord. Enfin, je pense que...
Mais on trouve, je crois que vous trouvez à la source tous les types d'enseignements.
Tous les types d'enseignements, comme on les trouve dans d'autres lycées, moi, je pense.
Oui.
Tu vois.
Oui.
On a peut-être plus de facilité sur un certain nombre de points matériels.
Oui.
Que dans un lycée qui sera petit et vieux dans une petite ville.
Oui.
Oui. Disons aussi qu'il y a quand même au total moins de vieux professeurs.
Et puis il y a aussi plus de jeunes professeurs, donc mieux acquis aux idées nouvelles, disons.
Oui. Oui, bien sûr. Et vous avez dit là tout à l'heure, vous avez parlé des élèves, vous avez dit qu'ils ne supporteraient pas.
Oui.
Ça, je pense que c'est très bien.
Oui, ça, alors là, c'est, je pense que vous en avez abondamment parlé, peut-être déjà avec d'autres collègues, mais. Oui. Ça tient à beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'ils ne supporteraient pas d'apprendre par cœur, de réciter par oral des choses apprises par cœur, et même d'entendre continuellement, toutes les heures, un professeur qui parle, sans jamais s'arrêter, sans jamais les interroger. Mmh. Ça, je crois que c'est quand même fini. Bah oui, ils ne supporteraient pas pour toutes sortes de raisons, à commencer par leur formation. Enfin, ça, je crois qu'il faut bien voir quand même la mutation profonde qu'il y a eu dans l'esprit d'un élève dans les 20 dernières années. Autrefois, ça remonte, disons, en gros, jusqu'à 1950. L'essentiel de ce qu'un élève apprenait, il l'apprenait quand même au lycée. Le professeur était celui qui savait tout, c'était celui qu'on écoutait, c'était celui qui apprenait des choses, et il suffisait d'être le bon élève qui apprend bien et qui écoute bien. Il n'y avait pas tellement d'ailleurs de façons de s'instruire en dehors de ça. Il y avait la radio, bien sûr, mais c'est tout. Et puis en 20 ans de temps, on s'est trouvé plongé quand même dans un monde où la télévision en particulier a considérablement changé les choses. Mais il n'y a pas que la télévision, il y a le développement de la radio aussi. Il y a une certaine façon d'utiliser tout l'audiovisuel, de lire la presse, qui a complètement fait changer les choses de sens. Le professeur n'est plus celui qui sait tout. Ils apprennent beaucoup de choses en dehors de l'école. Et surtout, ils l'apprennent de manière très différente. Ils l'apprennent en allant au cinéma, en regardant la télévision, en écoutant la radio, en mettant des disques, en lisant une presse assez facile à lire et bien présentée. Alors, ce qui se fait à l'école, de la façon traditionnelle, ça paraît rébarbatif à ce moment-là. Et ça passe moins. Enfin, il y a toute cette révolution, je crois qu'il faut bien, voir.
Vous croyez qu'il y a maintenant, plus de difficultés à avoir une discipline entre professeur élève ou...
Là encore, c'est
très variable. Les questions de discipline, je crois que c'est une sur le plan des individus. Moi, j'ai eu, quand j'étais élève, des professeurs avec qui j'étais extrêmement libre, et puis d'autres, au contraire, avec qui il y avait une barrière très, très haute. Je crois que maintenant, c'est moins... Comment dire ? C'est moins fréquent, quand même, qu'une barrière extrêmement épaisse soit mise entre professeurs et élèves. Mais ça dépendra aussi des individus. Il y aura toujours les professeurs qui arriveront, qui font leurs cours et qui partiront. Puis il y aura ceux qui, humainement parlant, essaieront de lier des contacts. Ça, je pense que ça... Enfin, je pense que c'est ce que les élèves demandent, de plus en plus. Mais je ne sais pas si... Ça ne dépendra pas des réactions individuelles. Il y aura toujours des professeurs qui seront loin de leurs élèves. Et même dans le cadre ancien, il y avait des professeurs qui étaient près de leurs élèves. Enfin, je crois que...
Oui.
Hein, je pense que ça, quand même, c'est quelque chose de très net.
Enfin, vous pensez qu'il y a... Je pense aussi qu'il y a toujours quand même le respect de...
Oh, moi, je crois, oui. On est toujours le professeur, mais les élèves aiment avoir avec leur professeur des contacts humains plus étroits qu'ils n'en éprouvaient peut-être le besoin autrefois. Mais je ne pense pas qu'il y ait quand même autre chose. Enfin, non.
Bah, je crois, oui. Il ne faut peut-être pas quand même exagérer ce qui se passe à l'heure actuelle dans les lycées parisiens, par exemple. C'est quand même un phénomène assez local.
Oui. Et restreint.
On a toujours un peu l'impression qu'en France, Paris c'est la France, mais...
Là c'est faux, je
crois. Là je crois que c'est faux, parce que... Moi j'avoue par exemple qu'au lycée de la Source, il n'y a vraiment aucun problème.
de discipline.
Ou de rapport. Il y a des difficultés d'expression, si vous voulez, avec le cadre administratif, par exemple, c'est pas encore parfait, quoique ça s'améliore. Mais disons, dans les rapports directs entre professeurs et élèves, sauf cas exceptionnel, il y en aura toujours.
Mmh. Il y aura toujours des professeurs qui se font chahuter par leurs élèves, il y aura toujours des professeurs qui seront loin de leurs élèves. Enfin, ça, c'est...
Mais en gros, ça se passe bien.
Ça se passe
et j'ai l'impression que dans tous les lycées de la ville, c'est un peu la même chose.
Voilà, tout à l'heure, vous avez parlé de la presse. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement parce que il y a 2 ans, j'étais assistante dans une ville de la France, dans un lycée mixte. Et les élèves me disaient qu'ils étaient, qu'on leur interdisait de lire certains journaux.
C'est ça, oui.
Donc, c'est vrai.
Alors, ça, là, je crois qu'il faut. Ça, ce sont toutes sortes d'interdictions, il y en avait beaucoup, qui ont été levées quand même depuis mai 68.
Oui.
Là, il y a quand même eu
une libéralisation
de la discipline à l'intérieur des lycées. Mmh. Et elle est quand même réelle. Elle n'est pas parfaite encore. Et puis, elle est variable suivant les établissements, parce que ça dépend beaucoup de la personnalité du chef d'établissement aussi. Mmh. Mais non, maintenant, les foyers d'élèves se sont multipliés, les abonnements aux journaux également.
Oui, il est évident qu'il y a un certain nombre de journaux quand même qui resteront toujours difficiles d'accès dans les lycées. Enfin, on abonnera plutôt un journal de réflexion qu'un journal plus purement politique.
Bien sûr.
Je pense que...
Bien sûr.
C'est assez réel quand même. Les familles pouvant...
Enfin, si les élèves veulent les lire, ils peuvent les lire. Mmh. Maintenant.
Oui.
Pas partout.
Je sais bien, pas partout. C'est en train de se faire. Moi, je crois qu'à la longue, ça se fera quand même. Moi, je vois au lycée où on était l'année dernière, tout de même. Il y avait même, par exemple, le foyer était abonné au Monde, au Figaro, à l'Humanité, à Paris Match, à la Nouvelle République. Mmh. Ils recevaient ça régulièrement.
Mmh.
Mais,
j'avoue que ça me
fait compliqué à l'époque. Ah oui. Oh, mais s'il y a 2 ans, oui, c'est vrai. Mmh. Ça, en ce sens, ça a quand même beaucoup évolué. Mmh. Ben, ça ne fait que commencer, d'ailleurs, je crois. Mais là, il y a quand même, si vous voulez, un acquis de mai 68 qui restera. Mmh. Tout n'a pas été parfait et souvent les résultats ont été décevants dans l'ensemble. Enfin, il restera quand même, sur certains points précis, des choses qui demeureront.
Mmh. Voilà. On nous cite souvent l'anecdote selon laquelle le ministre de l'Instruction publique pouvait vous dire à telle heure, tel jour, que tous les élèves, tous les petits Français dans tous les lycées de la France étaient en train de lire telle ou telle page de Virgile.
Non.
Ça, non.
Non, c'est fini.
Ça, c'est alors là, maintenant, c'est absolument fou.
Oui.
Franchement.
Mais à l'époque, c'était...
Il y a peut-être une 25 ou 30 ans.
Enfin, on est loin quand même. Hein.
C'est fini, non, franchement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois que c'est terminé.
Oui. Non, maintenant c'est fini. Ça, franchement, c'est plus possible pour toutes sortes de raisons.
La
multiplicité des sections, des effectifs, des professeurs, les variétés des programmes et des options.
Oui,
non. Non, ça, je crois que c'est vraiment terminé.
Oui. Et vous ne croyez pas que ce soit souhaitable
C'est un bien que ce soit terminé.
Oui,
je pense.
Non, je crois que ça... Vous voyez, ça se fait lentement, c'est sûr. On espérait quelque chose de spectaculaire et de rapide. Finalement, il apparaît que ce sera lent. Mais je crois que ça se fera quand même. Oui. Genre, de ce point de vue-là... D'ailleurs, je crois que même le ministre, maintenant, ne le dirait plus. Ça.
Non.
Il s'en garderait bien.
Oui. Mais enfin, pour nous, ça... je sais que maintenant, ça ne passe plus comme ça. Plus comme ça, mais... Vraiment, en Angleterre, ça n'a pas été comme ça, et pour l'anglais, c'était vraiment important.
Ah oui, je crois que les différences sont très grandes.
Oui. Et si on pourrait parler un peu maintenant des manuels, c'est quoi qui décide des choix de manuels?
Un conseil des professeurs, à la fin de l'année, se réunit et choisit les manuels pour l'année d'après, dans les collections existantes, en toute liberté de choix.
Oui. Alors, s'il y a un professeur qui n'aime pas le manuel, donc
eh bien, à ce moment-là, les professeurs de français se mettent d'accord sur il y a une commission qui se réunit et les, mettons, 5 professeurs de français votent et se décident. Bon, il peut y avoir un professeur qui n'est pas d'accord, mais il doit se ranger à l'avis de la majorité.
En principe, c'est comme ça.
En général, c'est comme ça.
Pour des raisons pratiques. Évidemment, l'idéal, ce serait que chaque professeur puisse choisir son manuel. Mais ça pose des problèmes
d'achat de livres pour les élèves.
Pour les élèves. Car on peut changer de section. Enfin, maintenant, il y a quand même
des
passerelles qui commencent à fonctionner. Alors, finalement, il est quand même plus rentable. Y compris pour les familles.
Que dans un établissement, pour telle section, ce soit
d'avoir le même manuel. Du moins, dans toutes les sections, pour une année.
Et c'est comme ça dans tous les...
Oui.
En gros, oui. Maintenant, si on sent une possibilité, ça peut arriver dans l'enseignement technique, où il y a des sections nettement compartimentées. Oui. Alors là, on peut laisser le choix aux professeurs. Ça peut arriver aussi.
C'est très libéral, ce sont les professeurs.
Mais la règle générale veut que ce soit la majorité des professeurs qui décident. De toute façon, il n'y aura jamais de décision satisfaisante, dans la mesure où vous avez aussi beaucoup de professeurs qui changent d'établissement tous les ans. Bon, quand vous arrivez dans un établissement, le manuel est fixé d'avance, vous trouvez un manuel qui peut ne pas vous plaire. Ça peut arriver. Ça a moins d'importance maintenant, dans la mesure où on attache beaucoup moins d'importance au manuel. Dans l'enseignement, vous comprenez? Le manuel n'est qu'un
recueil de textes,
un point de départ dont on se sert. Alors au fond, ça n'a pas grand importance. Et je dirais même que c'est souvent une boutade qui circule entre professeurs. Plus le manuel est mauvais, meilleurs seront les cours. Car finalement, c'est assez difficile de faire un bon cours avec un excellent manuel.
Oui.
Alors finalement, on n'y attache pas tellement d'importance, voyez, au manuel. Ça nous est
un peu égal. Je crois qu'il y a quand même une évolution qui se dessine, dans la mesure où le manuel était autrefois un cours rédigé, alors que maintenant, le manuel est quelque chose qui aide le professeur à faire son cours et à le rendre vivant. En histoire, par exemple, on tend de plus en plus à remplacer le manuel, qui était un cours, par un recueil de photographies, de statistiques, de textes sur lesquels nous travaillons et nous faisons réfléchir les élèves.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus apprendre sa leçon dans un manuel, finalement. C'est très net en histoire, par exemple.
Ben non, tu en as un qui est un peu petit.
Vous avez... Oh, ben celui-là est pas mal, déjà.
Non.
Vous avez des documents, en fait, qui sont présentés. Et qu'il est question de... Celui-là est encore mieux.
Voilà, la religion grecque. Alors, voilà le cours, qui est tout petit, et vous avez uniquement des textes.
Alors, vous trouverez encore, évidemment, des professeurs qui attachent beaucoup d'importance.
Des photographies, c'est un manuel de 6e.
Voilà, un manuel de français, par exemple,
du 20e siècle.
Mais moi, j'avoue que j'y attache pas tellement d'importance, dans la mesure où le manuel n'est jamais qu'un recueil de documents. Mais tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire.
Oui. Et vous croyez que...
C'est un nouveau manuel.
Oui, il n'est pas mis cette année, celui-là.
Mais je croyais que, justement, en Angleterre, le Gordas, c'est très...
Oui, bah toujours.
C'est renommé, mais...
Oui, je l'aime aussi, le Gordas. Mais ça, c'est peut-être la collection qui va sérieusement concurrencer le Gordas.
Le Gordas, oui.
Sans plus, parce que le Gordas est vraiment...
Excellent,
bien,
oui.
Bien implanté.
Oui.
Et vous croyez que les élèves apprécient beaucoup ce genre de manuel? Ils sont...
Oui.
Oui.
Ah oui. Oui, ils sont bien faits. Si, ceux-là sont bien faits. Là encore, il faut voir tous les progrès accomplis en même 30 ans.
Quand on compare les manuels que nous avions
les manuels qu'on avait
et les manuels que les élèves ont maintenant, c'est le jour et la nuit.
Il y avait une image toute noire et invisible, toutes les 10 pages à peu près. Et puis du texte.
Puis alors, pas du tout aéré, et puis un cours.
Alors là, il y a quand même eu de gros progrès.
Là, il y a
encore une fois, c'est pas spectaculaire, ça se fait petit à petit, mais on sent très bien que des manuels comme ceux-là vont très vite, dans 2 ou 3 ans, détrôner tous les anciens manuels. D'ailleurs, les éditeurs eux-mêmes refont tous leurs manuels.
Comment sont les manuels en Angleterre? Choisis également par l'établissement?
C'est-à-dire qu'en Angleterre, ce n'est pas les parents de l'élève qui achètent les manuels, c'est
l'établissement qui les fournit.
Voilà. Alors, de mon temps, il y avait les manuels prévus, et qui étaient bons ou mauvais suivant le choix. Oui, suivant la matière. Maintenant, je ne sais pas.
C'est-à-dire que c'est difficile parce que, par exemple, là, c'est du bord de l'anglais dans les lycées en Angleterre. Dès que vous arrivez à la classe de seconde,
oui.
Vous allez passer un examen à la fin de l'année, enfin, c'est le certificat général de l'éducation au niveau ordinaire, et vous avez des textes préscrits. Alors, finalement, vous avez par exemple une pièce de Shakespeare.
Oui, donc, il n'y a pas besoin de manuel pour comprendre.
Quelques poèmes. Et tout le manuel, enfin les manuels, ce sont les textes.
Ces textes,
intégraux. Enfin, nous disons les textes, et puis alors le professeur fait son cours avec des notes qu'il a préparées, quelque chose. Mais il n'y a pas vraiment de manuel.
De recueil, oui.
De recueil.
Oui.
Bon, je pense qu'il y a,
ça, oui.
Même pour l'histoire et la géographie, il y a moins d'appui sur le manuel où il y a peu de montants, je crois. Merci. Je pense que le professeur faisait son cours, on avait un manuel, surtout pour, je sais pas, copier des cartes ou suivre le cours, mais.
Oui, c'est un peu dans cette optique-là maintenant qu'on se dirige quand même.
Oui.
Le manuel sera beaucoup plus un recueil de travaux dirigés.
Oui, permettant d'illustrer le cours.
Oui.
Quelque chose qui permet de faire le cours.
Oui.
Plus que le cours tout fait. Oui. Ce qui était à la limite une aberration, il faut bien l'avouer. Puisque je vous dis, quand vous aviez un excellent manuel, le cours était fait dedans, on voyait plus très bien.
Oui.
Le professeur se contentait d'expliquer.
Oui. Il y avait toujours à expliquer.
Bon, il y avait toujours à faire. Puis ça s'adressait, c'est toujours pareil aussi, à d'autres élèves que ceux qu'on a maintenant.
Oui,
alors, c'était moins gênant.
Oui, il y a un problème qu'il faut aborder tout de même, c'est que dans un certain nombre de classes, de petites classes notamment, les manuels sont illisibles pour les élèves, tout bonnement, parce qu'ils ignorent la plupart des mots qui se trouvent dans ce manuel.
Oui.
En histoire et en géographie notamment, quand on fait l'antiquité avec des élèves de 6e, il faut d'abord faire un cours de vocabulaire. Alors, il est totalement inutile de se servir du manuel en tant que recueil. Beaucoup plus important est le fait de se servir des images, des reproductions, des graphiques, etc. Mais le texte lui-même, ils ne le comprennent pas. Ils sont incapables de le lire. Enfin, s'ils le lisent, ils le annonnent. Et ils sont incapables de le comprendre. C'est impossible. Il y en a 1 sur 30 qui comprend. Donc, à quoi sert le manuel? Alors qu'autrefois, étant donné que les enfants venaient de milieux tout de même, disons, plus cultivés, eh bien, ils avaient à leur disposition un vocabulaire beaucoup plus large. Maintenant, il faut reprendre les choses d'une toute autre manière.
S'agit-il pour vous de décider s'il faut créer l'égalité des chances pour les élèves ou comment la créer?
Oui, ça c'est très difficile.
Oui.
L'égalité des chances, bien sûr.
Oui.
Bien sûr, seulement, finalement, il faut s'expliquer parce que c'est vite dit dans l'abstrait, mais dans la pratique, c'est très difficile.
Oui.
Parce que, bon, il y a à l'heure actuelle en France, c'est vrai, une réelle démocratisation de l'enseignement au sens où on envoie de plus en plus d'élèves, non seulement à l'école primaire, mais dans les CES et même au lycée. Ça, c'est incontestable.
Oui.
Il y en a beaucoup plus qu'avant qui y vont. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que la démocratisation est réelle, parce qu'en fait, on s'aperçoit que derrière, il y a toutes sortes de choses qui ne suivent pas. Il y a toute l'éducation qu'ils ont reçue dans le milieu familial, il y a toute une ambiance qui fait qu'ils sont déjà bien marqués au départ, et que certains réussiront facilement, et d'autres ne réussiront pas, non pas en fonction de leurs possibilités, mais tout simplement en fonction du milieu social dans lequel ils ont été élevés. Alors finalement, on s'aperçoit que le problème recule. Alors c'est là que c'est très difficile. C'est là que c'est très difficile. Alors ça suppose une réadaptation de l'enseignement, car il est certain que si on maintient intégralement l'enseignement tel qu'il était autrefois, s'adressant à des élèves déjà sélectionnés, en fait, par la force des choses, tous ceux qui vont venir dans cet enseignement-là, une grande partie, il ne faut pas exagérer, il y en a qui peuvent s'adapter quand même, mais une grande partie de ceux qui vont y venir n'y trouveront pas leur place. C'est certain. Et ce sera une fausse chance qu'on leur offrira. Et même à la limite, on aggravera leur cas. Dans la mesure où ils vont se faire des idées, ils croiront pouvoir réussir, ils ne réussiront pas.
Ce sera encore plus ennuyeux.
Et ce sera encore plus grave, car à la fin du compte, ils n'auront aucune orientation et rien. Seulement, redéfinir l'enseignement pour que ces gens-là y trouvent leur place, ça ne veut pas dire non plus dénaturer complètement l'enseignement de telle sorte qu'il n'y ait plus du tout de préoccupation, quand même, un minimum, disons, de niveau à maintenir. Il faut quand même, il faut le redéfinir, cet enseignement, c'est sûr, mais il faut quand même qu'il garde une certaine efficacité, sur quoi on perd son temps. Oui. Ben alors, tout le problème est là. Oui. Maintenant, il est loin d'être réglé. Oui. Il est loin d'être réglé.
Oui. Vous croyez que les CES peuvent correspondre à l'idée du tronc commun ?
Oui. Alors, le CES, c'est quand même une bonne chose. C'était vraiment une réforme nécessaire. Mais en fait, elle n'est pas encore complètement appliquée. L'idée du tronc commun, elle a été un peu escamotée, parce que vous retrouvez à l'intérieur du CES les mêmes problèmes.
Qu'à travers le lycée.
Mais oui, dont je viens de parler. Le véritable tronc commun n'existe pas encore. Il n'existe pas, vous avez dès le départ quand même.
Il est certain que les élèves des milieux ruraux, par exemple, sont défavorisés par rapport à ceux des milieux urbains, dans la mesure où il y a encore beaucoup de CES qui ne sont que des CEG, où toutes les chances ne sont pas offertes.
Mais oui, vous n'avez pas beaucoup de choix, par exemple, pour l'enseignement
des langues. Les professeurs, d'autre part, il faut bien le dire, sont souvent formés d'une manière plus hâtive.
Plus hâtive, plus rapide. Oui.
Le niveau, donc, n'est pas le même.
Oui, là, il y a des inégalités aussi terribles. Je sais bien que c'est toujours très délicat à dire, parce que même entre collègues, parfois, c'est gênant. Mais il est certain qu'entre un CES de grande ville, comme le CES que vous pouvez trouver à Potier, par exemple,
ou à la source,
et puis un CES ou un CEG, souvent,
il faut quand même
dire nettement que la qualification, même du point de vue des professeurs,
est moindre.
Et fatalement, les élèves en font les frais.
Et pour les écoles libres, vous croyez que ça représente vraiment un choix pour...
Alors, le problème de l'école libre, de moins en moins, je crois, mais enfin, oui, ça représente encore un choix pour un certain nombre de familles qui veulent mettre leurs enfants à l'école libre. Ben, c'est compliqué.
Il y a un problème aussi qu'il faut évoquer, c'est que jusqu'à présent, l'épiscopat en France était très farouchement attaché à l'école libre. Or, la dernière déclaration, je ne sais pas si vous avez suivi dans la presse, mais la dernière déclaration des cardinaux et archevêques de France,
du mois de novembre, je crois,
qui date du mois de novembre, a consacré toute une partie de sa déclaration, qui était à l'issue d'une réunion plénière qui avait lieu à Lourdes, à l'enseignement et au problème des deux enseignements, enseignement public et enseignement libre. Et pour la première fois, l'épiscopat a reconnu l'existence d'un enseignement public et la possibilité pour les catholiques d'y mettre en toute conscience leurs enfants. Donc en fait, c'est un pas quand même extrêmement...
Il semblerait qu'à la longue, là encore ce sera long, ce ne sera pas spectaculaire je crois, mais ça commence à se faire quand même, l'Église catholique ait décidé plus ou moins d'abandonner.
Enfin, abandonner est un grand mot, disons, à obtenir autre chose.
De l'enseignement qu'elle...
Vous voyez, c'est-à-dire une ouverture peut-être plus grande de l'enseignement... Enfin, de l'enseignement public, c'est beaucoup dire.
Bon, mais de l'enseignement libre aussi.
De l'enseignement libre aussi, enfin oui.
Il est moins confessionnel qu'il n'était. Non, le problème est très compliqué parce que vous avez donc cet aspect confessionnel. Bon, il n'est pas douteux qu'il y a certaines familles qui mettent leurs enfants à l'école libre. Disons confessionnel, c'est pas tout à fait pareil, hein, dans la mesure où une école libre n'est pas forcément une école confessionnelle.
Oui, mais 90% en France des écoles libres sont des écoles ou protestantes ou catholiques. Enfin, disons catholiques surtout, mais dans l'Est, il y a également des écoles protestantes, chrétiennes.
Oui. Il y a donc cet aspect religieux qui joue. Mais vous avez aussi quand même un autre aspect. Vous avez bien des familles qui mettent leurs enfants à l'école libre ou à l'école chrétienne et qui ne sont pas spécialement chrétiens, mais tout simplement parce que...
Pendant longtemps,
je crois que c'est le plus vrai maintenant d'ailleurs, mais tout simplement parce que pendant longtemps, on a considéré que l'éducation y était meilleure, mieux suivie, et puis la sélection mieux faite. C'est-à-dire que les milieux vieux étaient mieux sélectionnés. Alors ça complique le problème. Et le problème, c'est encore compliqué après mai 68. C'est local, si vous voulez, mais c'est réel. Prenez la région parisienne, par exemple. Beaucoup de familles n'ont pas hésité à mettre leurs enfants à l'école libre, se moquant pas mal des questions religieuses ou confessionnelles, oui. Tout simplement parce que c'était des écoles où on travaillait, où il n'y avait pas de chahut.
Oui, d'accord.
Alors ça complique beaucoup le problème.
Oui.
Mais je pense, si on veut voir les choses de haut, que le problème est plutôt en voie de règlement, quand même.
Il est un fait aussi qu'il y a eu, si je me place en tant qu'historienne, si vous voulez, il y a eu en France un très grave problème d'une querelle de l'enseignement entre les années 1880 et 1940. Dans la mesure où le cheval de bataille d'une certaine partie de l'opinion publique en France a été la lutte contre l'influence de l'Église, qu'on appelle l'anticléricalisme. Et puis au contraire, de l'autre côté, une bonne partie des catholiques français étaient farouchement contre ce qu'on appelait la République, le radicalisme, etc. Et le summum a été en 1904, au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Et à ce moment-là, c'était des questions d'ordre politique qui compliquaient le problème. Or, il est certain qu'un certain nombre de générations ont été vraiment marquées par cette opposition très nette entre ceux qui allait à l'église et celui qui allait à l'église, celui qui n'y allait pas, si on reprend le poème d'Élevard. Bon. Mais de plus en plus, parmi les jeunes, il y a une incompréhension vraiment très grande sur l'intérêt que cette querelle scolaire peut poser. Pour des jeunes à qui, par exemple, moi, j'explique ce problème en histoire, eh bien, ils se demandent pourquoi leurs parents et leurs grands-parents se sont passionnés pour ça. Et se sont opposés très farouchement. Oui. Ça leur semble totalement dépassé.
Oui.
Et ça, c'est une constatation vraiment que j'ai fait constamment.
Oui, oui.
Donc, les jeunes générations ne sont absolument pas prêtes à se battre pour ça.
Oui.
Vous voyez ? Donc, il y a quand même un changement d'optique très très grand.
Oui, oui. Oui,
ça n'est plus du tout quelque chose qui passionne les jeunes.
Oui.
Automatiquement, le problème sera différent.
Oui.
Ouais, je pense.
Oui. Est-ce qu'il vous semble qu'il faudrait employer un critère d'utilité pour les matières qu'on enseigne? Je veux dire, il y a quelquefois, on mesure les matières d'enseignement contre critères d'utilité.
Oui, de rentabilité.
Oui, ça. Vous croyez que c'est valable?
Il faut se méfier, il faut faire très attention parce que finalement, on s'aperçoit...
Qu'est-ce que ça veut dire utile d'abord?
Qu'à l'heure actuelle, les techniques évoluent très vite.
Mm.
Et que même si on formait des gens qui puissent répondre très précisément aux besoins de l'heure, de toute façon, dans 10 ou 15 ans, il faudra bien qu'ils aient évolué aussi, enfin je pense surtout à l'enseignement technique bien sûr, qu'ils aient évolué, qu'ils se soient recyclés, qu'ils aient appris de nouvelles techniques.
Mmh.
Alors, et parfois ça va très vite, Alors, c'est une idée évidemment très tentante, mais il faut quand même se méfier. Non, alors je pense pas qu'il faille poser le problème en termes d'efficacité ou de rentabilité, mais plutôt en termes d'ouverture à la vie, d'adéquation à la vie, si vous voulez, quelque chose qui colle bien aux réalités quotidiennes. Alors ça, je crois que c'est vrai. Et ça, vous savez que c'est un des grands reproche qu'on fait à l'enseignement en France, c'est qu'il est trop désincarné, souvent. Il reste le fait d'intellectuel qui pose les problèmes abstraitement et qui oublie d'éduquer à la vie. Alors moi, il me semble beaucoup plus important, justement, d'éduquer à la vie et de permettre aux esprits conformes de s'adapter très vite à des nouvelles conditions, plus que de les former très précisément à telle ou telle chose. Parce qu'à la limite, c'est quand même comme ça qu'on fait des esclaves, du compte fait. Quand on apprend à quelqu'un à ne faire qu'un petit nombre de choses limitées, dont on sait très bien, évidemment, qu'il va pouvoir les utiliser tout de suite, et très bien, et de façon très rentable, on le prive aussi, par ailleurs, du pouvoir de réfléchir et de se réadapter quand il en a besoin.
Mmh.
Alors ça, il faut se méfier, il faut faire très attention. C'est souvent, évidemment, c'est une des grandes revendications de beaucoup de parents, de beaucoup de syndicats en France, et ça part de bonnes idées, mais moi je leur dis toujours qu'il y a derrière cela aussi un grand danger. Les parents me disent souvent, mais apprenez-leur donc comment on va sur la Lune, comment on fait marcher un sous-marin atomique. Oui, mais au fond, ça, ils pourront toujours l'apprendre.
Mmh.
si vraiment ils en ont envie. Mais si on passe notre temps, nous, à leur apprendre comment on fait un sous-marin atomique, on leur donnera peut-être la vocation de gens qui ont envie de construire des sous-marins atomiques, puis ils construiront des sous-marins atomiques toute leur vie. Ce n'est pas non plus une solution, je crois.
Oui, d'accord. Parce que vous avez beaucoup de rapports avec les parents de l'élève.
C'est très variable. Oui, finalement. Ah ben alors là, il faut franchement distinguer. Non, au total, les parents viennent assez peu voir les professeurs. C'est toujours pareil, on voit souvent les parents des bons élèves.
Oui.
C'est-à-dire les parents qu'on n'a pas besoin de voir. Parce que précisément, les parents des bons élèves sont des parents qui s'occupent de leurs enfants. Et puis les parents des élèves avec qui ça ne marche pas, ben, on ne les voit pas. Et là encore, il y a un rapport de cause à effet. Non, je crois qu'un professeur seul, individuel, voit peu les parents. Mais alors, dès que vous êtes responsable syndical, si vous voulez, ou dès que vous vous occupez d'un groupe de recherche pédagogique, alors là, les choses changent et vous voyez beaucoup de monde, et vous voyez beaucoup de parents. Mmh. Alors, vous les voyez surtout, dans ce cas-là, par le biais des associations de parents d'élèves. Mmh. Vous les rencontrez dans les conseils d'administration des lycées.
Mmh. Il y a quand même...
Alors là, on en voit, parce que maintenant, quand même, les parents sont conscients des difficultés, des problèmes, et sortent davantage. Mais vous voyez, on les voit plus sur le niveau
collectif. Il y a quand même le problème du professeur principal qui reçoit
aussi,
quand même...
Dans la classe du premier cycle.
Oui. Dans la classe du premier cycle, chaque classe est dotée d'un professeur qui coordonne l'enseignement, la marge de la classe, entre les différents professeurs.
Ah oui, ça existe depuis longtemps ?
Oui, ça fait bien 10 ans.
Une dizaine d'années à peu près.
Oui. Alors, juste pendant tout le premier cycle de tout ce qui est CES, 6e, 5e, 4e, 3e. Et ce professeur principal préside les conseils de classe et reçoit les parents. Et alors là, oui, il y a des réunions parents-professeurs, il y en a deux par an. Mais là encore, ce sont des réunions où les parents viennent ou ne viennent pas. Et on retrouve le même problème, c'est qu'à partir du moment où un élève pose des problèmes, eh bien, les parents ne viennent pas. Mais il y a une structure d'accueil, c'est-à-dire un professeur qui est là pour justement faire le contact entre les parents et les professeurs.
On peut toujours d'ailleurs demander aux parents de venir.
Et on peut toujours demander aux parents de venir. Et ça, c'est quand même quelque chose de très utile, je crois qu'il...
Oui. Donc disons qu'il y a quand même de plus en plus de contacts. Mmh. C'est pas encore parfait, pas non plus, loin de là. Mais au total, on les voit beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années.
Oui. Mais c'est surtout des contacts dans le cadre des...
Ah oui.
Oui,
oui, dans le cadre du lycée.
Oui.
Ah oui.
Sauf peut-être exceptionnellement.
Dans le cadre du lycée, alors je vous dis, sauf exceptionnellement, lorsque vous...
Dans une petite ville, dans...
Ah, ou
dans
les problèmes sont différents aussi, oui.
Où on est à même de connaître beaucoup mieux les gens.
Oui. Mais voilà, je veux dire, c'est toujours autour d'une table où il y a un conseil et tout le monde parle un peu à tout le monde, si vous voulez.
Non, pas forcément. On peut les voir individuellement.
Oui. Parce que pour nous, l'association des parents d'élèves, c'est aussi un peu différent. Il y a tous les trimestres, je crois, enfin, au lycée, c'est comme ça, les parents d'une certaine classe d'élèves sont invités de venir au lycée. Il y a comme une petite réception, enfin, et puis tout le monde circule librement, et vraiment, on parle parents à
c'est ça. Ça commence seulement.
Il y aura cette année,
cette année,
par exemple,
ça sera au lycée de la source.
Ce qu'on appelle une journée porte ouverte, c'est ça ?
Oui.
C'est-à-dire que les parents pourront venir dans le lycée.
Oui.
Oui. Mais c'est tout récent, ça.
Non, ça c'est tout récent, ça ne se faisait pas.
Voilà, ça n'a pas besoin d'un questionnaire, ils sont intéressés.
Oui. Ça commence simplement.
Oui. Et alors là, nous avons parlé d'utilité, je ne me souviens plus du mot dont vous êtes servi là.
Efficacité.
Et puis,
rentabilité.
Oui, rentabilité. Oui. Voilà. Alors vous qui êtes professeur de latin et de grec, vous trouvez qu'ils ont toujours un standing ?
Alors là, justement, c'est là que le problème se pose. Très cruellement, si j'ose dire. Mm. Parce que c'est véritablement les matières désintéressées par excellence. Mm. Alors, non, je crois qu'il faut, replacer ça, si vous voulez, dans toute l'évolution du monde moderne. Il est certain que jusqu'en 1940, à peu près, le latin et le grec étaient vraiment la base d'études, quelles qu'elles soient d'ailleurs, d'études aussi bien scientifiques que littéraires, et ça ne posait pas de grands problèmes. Un bon élève, un brillant élève, il faisait au lycée du latin et du grec, et puis ensuite en faculté, il faisait ce qu'il voulait. Des sciences, s'il voulait, ça pouvait très bien se faire. Or, maintenant, ça ne peut plus se faire. Maintenant, ça ne peut plus se faire, parce que notamment les sciences se sont développées très rapidement, et il est certain qu'on ne peut pas commencer à faire des sciences de façon valable à la faculté. On commence en seconde et en première. Alors, le latin et le grec ont perdu, incontestablement, de leur force. Alors, on ne peut plus en faire la base des études, je crois que c'est fini. Là encore, il faut leur retrouver, leur redéfinir une place. Ce sont maintenant, d'ailleurs, très officiellement, depuis cette année, des matières à option. C'est-à-dire que ce ne sont plus des matières obligatoires dans certaines sections, c'est toujours des matières que l'on peut prendre en plus. Donc on peut très bien maintenant faire des études, et de bonnes études apparemment, sans faire de latin et de grec, d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'on a fait du latin en France, tout simplement parce que le français venait du latin. Ce qui est quand même une justification assez forte. Notamment pour tous ceux qui voulaient être professeurs de français, il semble tout de même un peu difficile d'enseigner le français
sans avoir fait de latin.
Sans savoir d'où il vient. D'ailleurs, là, le problème est toujours, n'est pas réglé, puisque même en lettres modernes, pour les professeurs de lettres modernes, il y a toujours une épreuve de latin obligatoire. Et ça semble normal. Mais, ce qu'on faisait autrefois, c'est qu'en fait, on faisait de l'enseignement du latin l'apprentissage de la langue française. Alors ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, il est certain qu'à ce moment-là, l'enseignement du latin deviendrait quelque chose d'extrêmement gratuit, qui consisterait à savoir du latin, au fond, pour le plaisir de savoir du latin. Alors, ce qui n'est plus valable. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est insister beaucoup moins sur la langue latine elle-même, sur la grammaire, sur la syntaxe latine, et davantage sur les faits de civilisation. C'est-à-dire mélanger beaucoup plus étroitement les deux, connaissance de la langue et connaissance de la civilisation romaine. Et en faire en quelque sorte une initiation, plus en grec c'était la même chose exactement, en faire en quelque sorte une initiation à la civilisation grecque, à la civilisation romaine, alors qu'il s'insère tout de même dans un cadre beaucoup plus vaste.
Il y a peut-être cela, il y a aussi le fait que tout de même faire une version latine est formateur, comme faire un problème de maths, comme faire une version anglaise. Il y a quand même l'exercice qui reste, que tu le fasses sur du latin ou sur autre chose, mais il ne faut pas le privilégier
mais
par rapport aux autres.
C'est ça. Premièrement, il ne faut plus le privilégier, et secondement, il ne faut plus en faire une sorte d'exercice type, d'exercice concours, en fait. Car en fait ça, l'enseignement du latin et du grec, ça a été très longtemps, ça. C'était le concours pour les meilleurs. Alors maintenant, non. Alors en ce sens, l'enseignement du latin et du grec, je crois, ont encore une place dans l'enseignement secondaire, mais une place qui ne sera plus du tout la place privilégiée, mais qui sera une place assez petite et assez restreinte. Et puis, il y a aussi un deuxième problème, c'est l'enseignement du latin et du grec en faculté. Et là, les choses sont totalement différentes. Car on peut très bien maintenant se passer de latin et de grec que dans l'enseignement secondaire. Mais dans certaines disciplines de l'enseignement supérieur, c'est beaucoup plus difficile. Quelqu'un qui veut faire de l'histoire ancienne, qui veut se spécialiser en histoire ancienne, est obligé d'avoir un minimum de connaissances en latin et en grec. Quelqu'un qui veut faire de la sémantique en français, qui veut faire du vocabulaire ou de la phonétique, il est bien obligé de partir des termes latins. Alors finalement, beaucoup d'étudiants s'aperçoivent qu'arrivant en faculté, il leur faut connaître du latin, ça ne veut pas dire lire Cicéron ou Virgile comme ça,
Dans
le texte, sans traduction. Ça, je crois que c'est fini ce temps-là, c'est plus ça qu'il faut former. Mais c'est avoir quand même une idée, une connaissance, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, du latin. Alors paradoxalement, à l'heure actuelle, on assiste à ceci, c'est que les effectifs de latin et de grec diminuent dans l'enseignement secondaire, mais augmentent dans l'enseignement supérieur. Et en particulier, beaucoup d'étudiants commencent, le latin surtout, mais le grec un peu aussi, en faculté. Enfin, moi, c'est ce que je fais en faculté ici à la source. Pour le grec, je suis chargé de cours au CLU. En grec, cette année, l'année prochaine, j'aurai le grec et le latin aussi. Et en latin, j'aurai des grands débutants, comme on dit. C'est-à-dire des gens qui viennent de passer leur bac cette année et qui voulant faire des lettres modernes, ou voulant faire de la philosophie, ou voulant faire de l'histoire,
ont besoin de faire
vont s'initier au latin. Alors, vous voyez comment tend à se redéfinir l'enseignement des langues anciennes. Ça se distribuera beaucoup plus sous forme d'initiation. Vous voyez. Mais faire maintenant d'excellents élèves...
capables de faire du thème.
Capables de faire du thème latin ou du thème grec, on n'en voit plus l'intérêt. Sauf pour quelques spécialistes, il y en aura toujours, vous voyez. Mais ça prendra la place un peu de l'enseignement de l'hébreu.
Des langues orientales.
Des langues orientales. Alors ça, il y en aura toujours.
Oui. Mais alors ces grands débutants n'auront pas fait du tout de latin.
Non.
Oui.
Ils le commencent en faculté.
Oui. Ils vont le commencer en faculté.
Et en deux ans de temps, ils auront retrouvé un niveau. Normalement, ça s'accélère tout de même beaucoup plus facilement.
Ben à ça cet s'apprend âge, beaucoup ça mieux à cet âge-là, plus... même aussi. Mm. Ça s'apprend beaucoup mieux à cet âge-là. Sûrement, on peut aller beaucoup plus vite. Et puis, enfin, encore une fois, dans mon esprit, je sais bien que tout ça n'est pas très clair, parce que vous avez, il ne faut pas vous le cacher, vous avez à l'heure actuelle dans l'université française de terribles conflits à propos de l'enseignement du latin et du grec. Mm. Vous avez tout un nombre de professeurs qui ne veulent rien lâcher, qui veulent encore garder l'enseignement du latin et du grec tel qu'il fonctionnait auparavant, c'est-à-dire un enseignement qui finalement était fondé sur l'érudition, tout compte fait.
Oui, ce qu'on appelait l'humanisme, c'était parfois rien d'autre, oui.
Et puis d'autres qui essaient quand même, honnêtement, de redéfinir la chose. Je pense qu'on est trop marqué encore à l'heure actuelle. Dans 200 ans, je ne sais pas ce qui se passera, j'en sais rien. Mais on est trop marqué encore à l'heure actuelle par cette formation classique pour l'abandonner brutalement et complètement. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mais il faut absolument la redéfinir. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer dans les fêtes. En réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Des gens qui auront besoin de connaître du latin. Voyez, mais c'est totalement différent.
On parle des latinistes.
Que de faire des latinistes spécialistes qui vous prennent un texte latin et qui vous le lisent comme ça.
Oui. Enfin là, je sais que vous êtes le professeur, vous enseignez des matières qui vous sont en particulier. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des matières qui sont significatives ou importantes pour mesurer les capacités intellectuelles de l'enfant?
Plus spécialement les unes que les autres.
Moi personnellement, je crois pas.
Non, je pense pas. Il y a évidemment maintenant les trois disciplines de base qui sont le français, les maths et une langue vivante. Bon, ça reste les trois disciplines essentielles, mais il faut franchement le mieux, c'est à travers la scolarité de faire un peu de tout quand même. Il est certain que dans les matières artistiques, par exemple, on peut très bien voir certains côtés de la personnalité, même en dessin, en musique. On essaye, si ça ne marche pas, là encore, c'est pareil, il n'est pas question de forcer. C'est idiot, ça ne veut rien dire. Bon, quelqu'un qui n'est pas musicien, c'est pas la peine de lui faire faire de la musique. Mais je crois qu'à travers la musique peuvent se révéler un certain nombre de choses. La gymnastique, le sport... révèle aussi des aspects du caractère, finalement de façon tout aussi évidente et importante que la version latine. Ça, je crois. Alors, faire un choix, ça me semble quand même difficile.
Et pour la musique, là, madame, n'est-il pas tout à fait d'accord, je crois ?
Non, tu disais, il est inutile de faire de la musique à des gens qui ne sont pas musiciens.
Encore faut-il leur en avoir fait pour s'apercevoir qu'ils ne sont pas musiciens, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, je crois que si on veut trouver un problème à la sélection, finalement, c'est ça. C'est au départ offrir le maximum.
Oui, le maximum de chances.
Le maximum d'options dans les différents domaines, mais alors surtout en insistant absolument pas, quoi. Uniquement pour voir ce que ça donne.
Que chacun y trouve sa voie et son épanouissement.
Oui. Et puis
après se choisissent l'état dans lequel il se sent le mieux.
Oui. Enfin, pour venir un peu aux examens, certificats, on est touché, pas d'air. En Angleterre, on a tendance à dire très souvent qu'il y a trop d'examens. Et pourtant, il y en a toujours, il y en aura, je ne sais pas s'il y en aura toujours, mais il y en a toujours. Est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en France?
Ben oui, j'ai l'impression, tout compte fait, ça c'est compliqué. Aussi, je voyais un article de monsieur dans l'esprit qui revient des États-Unis. Ben, je ne sais pas si aux États-Unis ça marche comme en Angleterre aussi. Ça, C'est pas pareil. Et, finalement, qui concluait en disant qu'aux États-Unis, on passe beaucoup plus d'examens qu'en France. Mmh. Ben, en France, jusqu'au bac, on passe très peu d'examens. Mmh. Vous pouvez arriver au bac sans avoir jamais passé d'examen. Donc on ne peut pas dire, de ce point de vue-là, qu'il y en ait de trop.
Oui, enfin, examen et composition...
Ah oui. Non, alors là encore.
Alors là, depuis 68, il y a eu une évolution vraiment extrêmement grande.
Il n'y a
plus de composition. Il y a des devoirs que l'on fait en classe.
Il y a une sorte de notation continue. Un certain nombre d'exercices tests, bien entendu, mais qui sont quand même assez différents de la composition, dans la mesure où la composition avait vraiment un caractère sacré.
Oui.
Il y avait une composition par trimestre. On faisait la moyenne des trois compositions, et puis c'était sans appel. Mmh. Voilà. Ah oui, c'était le système aberrant. Ça fait bien longtemps d'ailleurs qu'on criait contre ce système, et ça fait bien longtemps, ça on le sait pas généralement, mais ça faisait bien longtemps que les professeurs le tournaient. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne faisaient pas...
Des moyennes.
Ils faisaient des moyennes de notes, et ils faisaient passer ça comme la note de composition. Ah oui. Oh non, mais le système n'était plus vivable. Alors il s'est écroulé de lui-même.
Parce qu'il était... Plus tellement
mais en
employé,
fait, il n'était déjà plus tellement
employé,
oui. Oui. Mais c'était très variable, encore, suivant les professeurs, suivant les méthodes.
Moi, j'ai enseigné l'histoire et la géographie depuis 1963. De 1963 à 68, j'ai toujours fourni des notes de composition. Mmh. Je n'ai jamais fait de composition.
Ah oui. Oui, ça compte, ça, je
m'en
rendais pas compte.
Oui,
donc en 1968, je n'ai pas eu à changer.
Oui,
j'ai continué ce que je faisais.
C'est très variable, mais par bien des points, 1968 a souvent... C'est-à-dire, pourquoi ça s'est écroulé si facilement? C'est que ça n'a fait souvent que consacrer
quelque chose
un
qui
état existait. De fait qui existait déjà.
Oui.
Seulement, évidemment, il existait par la bande et il y avait toujours l'opposition qui était là. Alors, c'est l'effondrement de cette opposition, en fait, auquel on a assisté en 1968. Alors maintenant, ben non, en fait, dans la scolarité, vous avez donc ces notes données par le professeur, mais qui tiennent compte de tout un ensemble, finalement.
Oui.
Des devoirs, des interventions orales, qui n'ont plus le caractère très brutal, très mathématique des notes qu'on donnait autrefois. Puis vous avez à la fin de l'année, bien sûr, le conseil de classe, qu'on peut appeler une sorte d'examen, si vous voulez, mais enfin, qui juge quand même le travail d'un an. C'est quand même plus valable que le simple examen qu'on passe en deux jours.
Et ben même pour...
Pardon. Oui, vas-y.
Je l'ai en même pour les examens, comme le bac.
Oui.
Même en Angleterre, on commence, enfin, il y a certains professeurs dans certains milieux qui voudraient changer un peu le système.
Oui, mais ici aussi.
Oui.
Moi, le bac, je n'y crois plus beaucoup. Enfin, c'est un examen que je n'arrive pas tellement maintenant à prendre au sérieux. Il se survit à lui-même, on ne sait pas trop comment le remplacer. En fait, le problème, il est extérieur au bac. Le problème, c'est plus tellement le problème du bac, on arriverait à le régler assez facilement, c'est le problème de l'entrée en faculté.
Oui.
Les deux sont étroitement liés. Or, à l'heure actuelle, le gouvernement ne peut pas, étant donné ce qui s'est passé en 68, mettre un examen d'entrée en faculté. C'est véritablement très antipopulaire en France, ce serait faire une provocation inutile. Par ailleurs, laisser l'entrée complètement libre en faculté, c'est aberrant, c'est pas possible. Alors finalement, l'examen d'entrée en faculté, finalement, c'est le bac. En réalité, c'est ça.
Alors oui, vous croyez qu'il faut remplacer un examen par un autre type d'examen?
Ben voilà, non, moi je ne préférerais pas, mais j'avoue que quand on me demande ce que je ferais, je suis assez embarrassé ici pour trouver la solution.
Oui.
Non, on pourrait, à la rigueur, il ne serait pas impensable. Est-ce que ça changerait grand-chose? Peut-être pas tellement. De dire en première année de fac, il va qui veut. C'est aberrant à l'heure actuelle parce que les structures ne sont pas prêtes à accueillir. Mais on y va un peu en France, puisqu'on accueille un nombre incroyable d'étudiants si on compare à tous les autres pays.
Oui.
Alors au fond, faire sauter le barrage du bac, je ne sais pas si ça changerait tellement de choses. Seulement de toute façon, on serait bien obligé à la fin de la première année de mettre un examen. Finalement, on recule le problème. D'autre part, cette première année de faculté, si elle était ouverte à tout le monde, automatiquement aurait un niveau inférieur, fatalement, à ce qu'elle est à l'heure actuelle, et on retomberait tout compte fait dans une sorte de bac.
Oui.
Donc vraiment, là, le problème est très difficile. Je ne sais pas trop comment le régler. Le bac ne veut plus dire grand-chose, mais il a un tel poids, une telle force, qui fonctionne toujours. Non, il n'est pas satisfaisant. Moi, j'avoue que c'est un examen dont je me contente pas. C'est trop peu ou c'est trop, si vous voulez. Si c'est véritablement pour rechercher les futurs bons étudiants des facultés, c'est trop. C'est trop. Si c'est pour donner un certificat de fin d'études secondaires et attester qu'on a fait une bonne scolarité en France,
c'est pas assez.
C'est pas assez. Mmh. C'est très ambigu, finalement. Mmh. Mais c'est pas mûr. Enfin, là, les réformes ne sont pas mûres. Je crois que le bac fonctionnera encore pendant quelques années.
On pourrait peut-être imaginer quand même un certificat d'aptitude de fin d'études secondaires, d'une part, et puis un examen d'entrée dans les facultés. Ce qui ne va pas, c'est que le baccalauréat est les deux à la fois.
On a tout examiné, et puis on a dit au début, en 68, une des réformes qui avait été proposée, c'était, suivant les résultats du bac,
on pouvait admettre
en faculté, ou donner le bac sans admission en faculté, et puis finalement, ça a volé en éclats. Il y a en France un état d'esprit, mais c'est un état d'esprit très général, qui est contre toute espèce de sélection.
Enfin, pour ce qu'il y a du bac, vous croyez qu'il faut qu'il garde sa forme essentielle, par exemple, combien de matières croyez-vous qu'il faut mettre pour le bac? Parce que là, vous savez qu'en Angleterre, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche.
Ce sont des options.
Oui. On fait, par exemple, il y a deux niveaux, il y a le E-level et le A-level. Alors, à 15 ans, 16 ans, on passe au level et on choisit 7, ça peut aller de 4 à 8 ou 9 matières.
Oui.
Et puis, deux ans après, on est déjà un peu spécialisé et on peut choisir trois qu'on fait, trois matières. Alors, est-ce que vous croyez qu'il faut garder le bac en tant que tel?
De toute manière, il est actuellement déjà même assez spécialisé.
Là aussi,
si vous prenez,
changé.
Par exemple, une section comme la section D, qui est une section physique, sciences naturelles, vous avez à l'écrit 4 épreuves. Philo, maths, sciences physiques, sciences naturelles. Maths, physique, sciences naturelles, c'est... Le sciences physiques, sciences naturelles, c'est quand même très proche, enfin. Mmh. Bon. Et puis vous avez à l'oral une langue et de l'histoire et de la géographie. C'est déjà quand même très spécialisé.
Oui.
Et puis au contraire, vous avez la section littéraire, la section A, où vous avez philo, deux langues, histoire, géographie, dans un premier groupe d'épreuves. Le français ayant été passé en première. Donc c'est déjà quand même spécialisé.
Ça s'est allégé.
Ça s'est beaucoup allégé par rapport à ce qui pouvait exister.
On peut imaginer encore qu'il y en ait un peu moins. Moi, je vous
dis il faudra bien quand même garder un niveau de... Enfin, laisser quand même des lettres, disons du français pour les scientifiques. Il faudra bien quand même tester un jour ou l'autre le niveau français.
Le français est un peu à part.
C'est pourquoi d'ailleurs on le passe en première peut-être. Dans le fond, c'était pas plus mal.
Il a été mis à part dans la mesure... Bah oui, de ce point de vue-là...
Il est évident que pour quelqu'un qui veut avoir... un niveau de fin d'études de secondaire, il y a une expression française qui doit être acquise.
Oui.
Pour chacun, qu'il fasse polytechnique,
chose n'importe quoi,
les chartres ou autre chose. Enfin. Oui.
Sans quoi, il n'ira pas loin, de toute façon. Oui. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de rapports à faire. Quelqu'un qui possède mal sa langue
ne peut rien, faire, qu'il soit scientifique
sera,
ou littéraire.
Qu'il soit n'importe quoi, oui, sera handicapé. Par la suite, ça je crois quand même.
Oui, c'est vrai, même en Angleterre, on peut remarquer que quelquefois il y a des matheux qui font par exemple chez maths, physique, chimie et qui ne font pas tellement d'anglais.
C'est ça.
C'est le cas. Oui. Parce que il y a 5 ans, 6 ans, c'était pas forcé qu'ils fassent de l'anglais.
Oui.
Maintenant, ils fassent une petite épreuve, mais toute petite, enfin.
Il faut, ils sont quand même.
Oui. Je crois quand même que c'est essentiel.
Oui.
Ben, je crois que ça va. Alors là, ça va dans les exigences du monde moderne quand même. Mm-hmm. Où quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer ou qui ne sait pas écrire est quand même tout le temps condamné à être un peu écrasé, à moins de faire des métiers très particuliers où vraiment ça n'intervient pas.
Non, mais disons, au niveau de l'enseignement,
ça intervient au total beaucoup plus souvent qu'autrefois.
Attendez, qu'est-ce que vous allez en faire?
Ça se mélange dans la mort.
Ah ben nous, personnellement, on va donner ça à d'autres membres de l'équipe.
Oui, non, mais cette équipe, ouais, elle est constituée comment?
Non, c'est une équipe formée de plusieurs personnes qui sont surtout des professeurs dans 5 différentes universités en Angleterre.
Non, merci, je crois que je vais prendre une cravate si vous voulez bien.
Alors, il y a l'université de...
Non. French cigarettes.
Merci. Il y a l'université de Londres, l'université de Sèvres, l'université de Colchester.
Non, il y a l'université de York, Essex, Londres. Et puis alors, là où Emmanuel le dit, c'est un, enfin, ça s'appelle en anglais polytechnique, mais c'est un.
Oui.
Collège d'enseignement, enfin vraiment d'enseignement supérieur,
c'est ça, oui.
Prépare des licences,
oui.
Mais plutôt dans un...
Une optique technique peut-être.
Oui,
oui.
C'est plutôt ça.
Oui.
Où ils apprennent la langue, enfin ils ne font plus de stage à l'université, qui soit orienté vers la littérature, c'est plutôt vers la politique d'enseignement, enfin les institutions françaises, des choses. Enfin, la vie française actuelle, justement, ce que les universités essayent de faire, c'est une présentation d'abord d'une vie française de province où il y a des particuliers qui parlent de leur ville, de leur vie, de leur journée, pour recueillir un certain nombre de points de vue français, pour présenter la ville, et ensuite nous avons interviewé certains patrons dans l'industrie, des enseignants.
C'est ça, oui, toutes les corporations,
oui,
pratiquement. Oui, d'accord. Oui, oui, d'accord.
Et alors, ils vont faire une synthèse et une présentation donc d'Orléans et de tout ce qu'on a pu recueillir.
En tant que vie française.
Pour
et pourquoi Orléans?
Oh, justement, ça a été. C'est une ville de province. Et
à cause du CRDP, peut-être aussi, non?
Oh non, je crois pas. Ça, c'est dû après. C'est
une ville de province qui
n'est pas trop loin
de Paris.
Enfin, où il y a quand même. Qui est, où il n'y a pas d'accent. Qui est, qui est
sur le plan du français, c'est certain, oui. Bien sûr.
Et bien sûr, si justement on fait une présentation d'une.
Il faut que ce soit. Oui, il faut que ce soit quand même un français relativement.
Oui, c'est ça.
J'allais dire neutre, enfin ou pur, je ne sais pas comment on peut dire.
Plutôt, enfin, sans, oui.
Sans accent très net, disons, oui.
Et où les élèves peuvent quand même reconnaître un accent français à laquelle, auquel ils sont.
Moyen,
assez,
un accent moyen. Oui.
Bah, c'est familiarisé, quoi. Parce que si on a représenté un portrait de Marseille,
c'est
très intéressant. Oh, mais pour des élèves, enfin, en seconde, première et terminale, bien sûr, il faut quand même qu'ils aient.
Bien sûr.
Peut-être à faire, ça, non. Après, quand ils
sont
habitués à l'accent local, neutre, alors là...
Oh, mais même parfois, vous savez, même en France, parfois, il y a certains Marseillais qui ont un débit très rapide et on a du mal à les suivre.
Oui, c'est vrai, mais c'est pareil pour les Anglais qui écoutent des gens en Yorkshire, par exemple.
Ça, oui.
Alors moi, quand je suis allée la première fois dans Yorkshire chez les parents de mon mari, je les comprenais, c'est par exemple, il y avait des voisins et des personnes que je comprenais, autant dire, pas du tout.
Moi, je me souviens avoir eu une correspondante dont la tante était écossaise.
Oui. Ah oui. Ah oui, l'accent écossais est vraiment... C'est très joli pour un anglais, c'est...
Oui, et pour un français, c'est incompréhensible.
Même pour un anglais, des fois.
Oui, il est certain que dans le Val-de-Loire, il n'y a pas d'accent, enfin...
Ah ben non, c'est vraiment...
C'est vraiment le français type...
Vous êtes vraiment au cœur, au centre,
Où l'on parle un français très, très moyen, oui, c'est certain.
C'est finalement le français qui s'est imposé au pays.
Oui, c'est ça. C'est la langue qui la langue dominante, oui, c'est sûr.
Oui, alors, il y a beaucoup d'Orléanais qui nous disent, justement, pourquoi choisir Orléans, c'est mort, c'est ceci,
c'est pas vrai du tout.
Moi, je ne trouve pas, non. Les gens sont très accueillants, en général.
C'est une ville qui est en train de changer. C'est une ville qui est en train de changer.
Il y a 15 ans peut-être, mais maintenant je ne pense pas, c'est pas mort, non?
Non. De toute façon, nous sommes très bien.
C'est-à-dire que dans toutes les villes, il y a toujours des gens, enfin des personnes qui vont être prêtes à vous écouter.
Oui,
et d'autres qui n'ont... Bien sûr.
Ne sont pas intéressés du tout, bien sûr, on s'attend à voir ça.
Ça, c'est clair.
Donc, je crois que...
C'est certain.
Aussi bien que ça n'échappe pas,
bien sûr. Oui, ça c'est évident.
Enfin, si vous êtes content de votre...
Non, mais vous avez une ville de province en pleine mutation, là.
Vous voyez. Oui, qui se transforme beaucoup.
Enfin,
nous connaissons bien dans la mesure où nous sommes de vieux Orléanais.
Ah, oui.
Nous sommes nés à Orléans, de parents Orléanais. Oui. Et on peut vous dire vraiment qu'on a fait toutes nos études dans le lycée d'Orléans. Oui. On a fait le début de notre scolarité supérieure au lycée Potier, en Cagne. Et c'est une ville qui a beaucoup changé.
On a fait évidemment nos études à Paris.
Oui, après on est allé à la Sorbonne, mais enfin, on a quand même vécu à Orléans pendant un certain temps,
oui.
Ce qui fait qu'on a vraiment senti la différence,
oui.
Si vous voulez. Oui. Tant plus qu'on est parti à Vendôme, vous voyez où est Vendôme, au nord de Blois, 5 ans, puis nous sommes revenus cette année, et on a senti encore plus, parce qu'on avait quitté un peu.
Oui, c'est-à-dire que nous on remarque beaucoup, en étudiant un peu les industries, Par exemple, nous sommes allés chez les vignerons des Bois.
Oui.
Alors là, ils nous ont montré toutes les installations qu'ils ont faites depuis 3 ans.
C'est ça, oui.
Et vraiment...
On sent la transformation.
Oui, oui. Oui, moi je crois qu'on a fait le bon choix, quoi. Là, c'est... la peine
d'être civile. Non, mais ça c'est vrai. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a des choses intéressantes.
Oui.
Et est-ce qu'il y aura quelque chose d'édité de...
Oui.
Plusieurs articles, et puis alors au final...
Est-ce qu'on pourra savoir le résultat
Oui,
ce serait intéressant quand même de voir qu'est-ce que...
Oui.
Enfin, moi, en tant que géographe, ça m'intéresserait beaucoup de...
Oui.
Excusez-moi.
Oui, je pense qu'on va envoyer des exemplaires.
Quelques exemplaires.
Oui.
Tu te mets là.
À la place tout chaude.
Tout chaude.
Tu as des frères et des sœurs?
Non.
Non.
Tu es une fille toute seule pour le moment. Mais elle a beaucoup de petits amis.
Il y a deux petits amis qui sont venus hier et aujourd'hui.
Ah oui?
Ils sont venus coucher.
Ah, c'est bien ça. Et tu vas en classe, tu vas à l'école?
Oui, j'ai 5 ans déjà.
Oh oui, alors. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais comme...
Je fais des dessins, de la peinture.
Oui.
Puis, je fais déjà de la poterie.
Oh, bon.
Oui,
très bien. Oh, c'est joli ça. Tu l'as fait tout seul?
Où est ton ordinateur?
Regarde, il est peut-être sur mon bureau ou dans ma chambre, sur la table de nuit, tu verras.
Non. Oui, moi je l'ai fait, alors à l'âge de 18 ans, ça ressemble un peu à ça. Et même avec le truc qui tourne. Et...
Ah, très bien.
Oui. Oh, oui, parce que vous voyez, quand ça tourne vite et vous n'êtes pas tout à fait au milieu, ça fait un peu.
Oui.
Je ne sais pas si vous en avez fait de la poterie, mais je peux dire, c'est.
Non. Ah oui, là, hein. Bien, bien dans l'axe, oui, parce que ça...
Et puis c'est mou, ça ne marche pas, ça. Et bien, le bol est partout. Et tu l'as peint tout seul, ça?
Oui,
oh, c'est très bien. C'est très bien. Comment tu t'appelles?
Claire.
J'ai une nièce qui s'appelle Claire. Et la ton âge, exactement. Elle ressemble un peu, d'ailleurs.
Oui.
Qu'est-ce que tu fais d'autre?
À l'école, j'ai fait des très jolis dessins.
De quoi?
Des très jolis dessins.
Oui? Qu'est-ce que tu dessines?
Des petits canards.
Des petits canards? Oui. Tu aimes les canards?
Qu'est-ce que tu veux chérie?
Non,
mais...
Et l'enseignement maternel n'est pas mal conçu en France. Marcherait bien si, parce qu'en France rien ne marche dans l'enseignement à l'heure actuelle, marcherait bien si le problème des effectifs était réglé. Parce que eux, ils ont réglé le problème de la pédagogie. Ils sont dans la non-directivité complète. Les groupes ils arrivent à l'école, ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils font, enfin, il n'y a plus de...
Oui, oui.
Ça va très bien. Ça pose d'ailleurs des problèmes parce que dans l'enseignement primaire, qui est probablement l'enseignement le plus en retard de tous nos enseignements, c'est exactement le contraire.
C'est trop de directivité.
C'est vraiment le dernier... Enfin, l'enseignement secondaire, il y a beaucoup à faire, mais disons qu'il commence à se réformer, mais l'enseignement primaire, alors, il y a un monumental coup de balai. À donner, les instituteurs le reconnaissent eux-mêmes, d'ailleurs. Enfin,
Est-ce qu'on commence à apprendre les langues modernes?
Et non, justement, c'est toujours
un projet. Ce sont des toutes petites expériences très localisées. À Bordeaux, il y a eu deux écoles maternelles où on a fait l'une de l'allemand, l'autre de l'anglais. Mais enfin, ça reste des expériences extrêmement locales et très peu
pour des raisons de crédit, surtout.
Il faut des instituteurs qui soient bilingues, et ça pose des problèmes.
Oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est très étendu en Angleterre, mais je connais une famille où il y a trois garçons, et déjà, le petit qui a 7 ans, il apprend le français, et ça lui fait beaucoup, beaucoup. Et puis, pour les enfants de cet âge, ils ont une facilité à...
C'est sûr. Tu veux lui montrer, voilà.
La collection va y passer.
C'est pour maman.
C'est très bien. Et l'autre, c'était pour papa.
Oui. C'est deux.
Deux pour papa.
Oui.
Et un seul pour maman.
Moi, j'ai eu un dessin aussi. Avec. Oui. Attention, Claire, s'il te plaît. Fais attention, Claire.
Vous avez des canards? Le portrait?
Non. Non, c'était un portrait de maman qu'on avait dessiné.
Oh, c'est très bien.
Alors, va faire ce que je t'ai dit, chérie, s'il te plaît.
Va mettre tes bijoux.
Oui, écoute-moi, va mettre tes chaussures. Tu
bon, alors je crois qu'on va terminer ça. C'était.
La discipline, vous avez dit, non?
Oui.
Oui.
Le rôle du censeur, ça consiste en quoi?
Ah. Ça dépend de ce que lui fait faire le proviseur. Mais.
Ça, c'est une boutade à l'anglaise. Je m'abuse.
En gros.
Humoristique.
Eh ben, en gros, oui. En gros, le censeur s'occupe de l'organisation matérielle des cours. Par exemple, le censeur fait les emplois du temps des professeurs. Alors, les emplois du temps, hein, c'est-à-dire qu'il leur dit le lundi de 8h à 9h, vous avez cours dans telle salle. Mais le proviseur, lui, a choisi
la classe.
Le proviseur a dit au professeur, vous ferez la seconde, le français en seconde. Où vous ferez le latin en terminale, où vous ferez les maths en troisième. Ça, c'est le proviseur qui le décide. Puis ensuite, il transmet son papier au censeur, qui, à partir de ça, fait l'emploi du temps. Il s'occupe, en fait, c'est ça, de tous les problèmes d'organisation pratique. Vous voyez, constante. Problème de salle, problème...
Bon, de discipline, toute administration, les papiers, les... tout ce qui c'est est ça. Notes, classements, bulletins.
Le proviseur ayant la signature, comme on dit, c'est-à-dire que tout ce qui est important lui passe par les mains, finalement, mais pas les détails matériels. Alors, les détails matériels pour les études, c'est le censeur, et sur le plan véritablement très matériel, nourriture, entretien des bâtiments, c'est l'intendant.
Ah oui. Vous
voyez ?
Mais alors, pour ce qui est de la discipline...
Alors, discipline, vous avez d'abord les surveillants généraux, en fait, qui sont les responsables de la discipline dans le lycée, et les cas, simplement, alors les cas exceptionnels remontent, alors après, ça c'est très français, ça, et très napoléonien, ça suit la voie hiérarchique, c'est-à-dire que des surveillants généraux, ça va au censeur, et du censeur, ça va au proviseur. Un peu comme à la caserne, du lieutenant au capitaine, du capitaine au commandant, du commandant au colonel, du colonel au général. Alors, évidemment, suivant que ça monte, plus c'est grave, plus ça va haut.
Oui, d'accord.
Mais en fait, il faut bien dire qu'à l'heure actuelle, là encore, les choses ne sont pas claires, finalement, et ça dépend beaucoup de la personnalité du chef d'établissement. Si vous avez un proviseur qui veut tout faire par lui-même, il transforme son censeur en surveillant général. Et le surveillant général devient un surveillant, simplement. Si vous avez un proviseur qui voit les choses de haut et qui ne voit que ce qui le concerne véritablement, alors le censeur a beaucoup d'initiatives.
Et lui, c'est la source, donc...
Non, l'ici de la source, là encore,
c'est un lycée neuf. Ça fait un an que ça fonctionne.
Oui.
Alors,
je crois que le proviseur, sur le plan administratif, est très capable. Vous l'avez vu, enfin, il est jeune, il a beaucoup de mémoire, il a beaucoup de rapidité dans la décision. Il sait faire tourner son lycée. Madame le censeur, elle, elle...
un rôle également très...
Ah, voilà, je crois qu'ils ont bien partagé les rôles. Mmh. Je crois qu'ils ont bien partagé les rôles. Enfin, on n'hésite pas, on sait toujours, nous, si on a affaire au censeur ou au proviseur.
C'est bon signe.
Il n'y a jamais aucune ambiguïté. On sait. Alors, ça, c'est quand même bon signe. Et c'est marqué sur les papiers qu'on nous donne. Passer au secrétariat du censeur ou au secrétariat du proviseur. Il n'y a jamais d'ambiguïté. Mmh. Je crois qu'ils se sont bien partagés les rôles. Mmh.
Enfin, pour un Anglais, ça fait beaucoup d'organisation, d'administration. Parce qu'en Angleterre, vous devez le savoir un peu, c'est plutôt les professeurs et les élèves, surtout, qui sont chargés de leur propre discipline, si vous voulez. Là, je parle de leur discipline. Les grands élèves qui sont chargés de certaines classes de plus petits. Et même, dans chaque classe, il y a un élève qui est form captain, enfin.
Oui.
Alors, qui dirige un peu, enfin, qui essaie de maintenir un tout petit peu la discipline.
C'est ça.
Très bien. Tu as attaché.
Vous croyez que ça devient. Qu'il y a quelque chose qui rapproche un peu
Non,
comme. Il y a une tentative.
Là, on avait beaucoup essayé de faire ça après mai 68. C'est ce qui avait été demandé, ce qui avait été réclamé. Et puis, on s'est aperçu que. On peut dire de longs siècles. Si vous voulez, de discipline hiérarchisée, avait véritablement modelé tout le monde, élèves, professeurs, administration, à un autre système, et qu'on ne pouvait pas passer en 6 mois de temps de l'autodiscipline complète au contraire de l'autodiscipline qui existait avant. Alors, il y a eu des tentatives, en particulier l'année dernière, et on a assisté, alors ça n'est pas douteux cette année, à une régression, à un retour à l'ancien système. Alors vous en avez un exemple au lycée de la Sourde d'ailleurs. Si vous avez vu l'architecture du lycée, c'est un lycée qui pour une fois a été bien conçu, dans la mesure où il a été conçu pour l'autodiscipline. Absolument impossible de surveiller un lycée comme celui-là avec les normes traditionnelles. Les surveillantes sont crevées d'ailleurs, parce qu'elles sont continuellement en train de monter et de descendre des escaliers, puis les couloirs font comme ça. Alors, vous ne pouvez même pas mettre un surveillant pour 70 mètres de couloir, c'est pas possible. Ça tourne continuellement.
Oui.
Alors. Là, il y a beaucoup à faire. Si sur le plan de la discipline, il y aura encore beaucoup de choses à faire.
Donc, je crois qu'il faut surtout distinguer. C'est un lycée qui a été construit pour un second cycle. Et il y a actuellement dans ce lycée un premier cycle et un second cycle. S'il n'y avait qu'un second cycle, le problème serait réglé. Parce que les grands peuvent prendre en main une certaine autodiscipline. Mmh. Il est évident qu'étant donné que les petits ne sont pas du tout formés à cela, les sixièmes et les cinquièmes sont absolument perdus. Et font beaucoup de désordre dans ce lycée qui n'est pas conçu pour eux. Donc dans 2 ans, lorsque le premier cycle ne sera plus dans le lycée, je crois que alors les choses seront claires.
On pourra prendre la méthode que vous disiez, qui est celle qui est connue en France, qui est souhaitée par beaucoup de professeurs, qui est souhaitable en effet, mais qui là, vous avez un bon exemple des carences, si vous voulez, à l'heure actuelle, de la politique en matière d'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on construit un établissement neuf, et puis tout de suite on le bourre, parce que les établissements qui devaient être à côté n'ont pas été construits. Il y a en face un CES qui devait se construire.
Qui ne sera construit qu'en 72. Alors pendant 2 ans, il faut vivre avec des petits là où les choses ont été prévues pour
des gamins de 10, 11 ans, de 6e ou 5e, qui errent, il n'y a pas d'autre mot, dans cette espèce de grand machin qui n'a pas été fait pour eux. Et puis qui sont là et puis qu'on garde parce qu'on ne sait pas où les mettre. Alors évidemment, le proviseur qui a la responsabilité de tout ça, lui, il n'est pas question de laisser errer dans ce grand établissement des gosses de 10 ans. Il en met des surveillants derrière. Et finalement, on n'en sort pas.
Oui.
Et cela déteint sur la discipline des grands qui se trouvent beaucoup trop surveillés.
Oui.
Seulement, c'est parce que le mécanisme est en route, en surveillant les petits, on surveille les grands.
Oui.
Mais y a
ce qui est mauvais, c'est qu'on mélange les deux. Quoi.
Et puis surtout, en surveillant les petits, on ne leur apprend pas.
À devenir aussi après capable
de se former à l'autodiscipline. Enfin, la surveillance est conçue de telle façon en France qu'elle n'est pas formatrice. Elle est répressive. Bon, mais alors là, c'est un grand problème, et là, on n'en est pas sorti encore. Je crois que ça demandera du temps. Ça.
Ça demande aussi beaucoup de temps aux professeurs, parce que bien sûr, les enfants veulent bien participer à leur propre discipline, mais ils ne sont quand même pas capables de tenir l'ordre, je ne sais pas combien d'élèves à la fois. Alors, c'est les professeurs aussi qui en sont chargés.
Oui, dans le cours, simplement. Mais dans les cours, il n'y a pas de grand problème de discipline. Enfin, ça, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe.
Non, mais je veux dire, même, par exemple, dans un internat,
Oui, mais c'est ce que je voulais vous dire, oui.
Oui. Il y a les professeurs qui sont là.
Et... Alors là, dans l'internat, il y a quand même eu, vous voyez, au lycée de la Source, vous savez qu'autrefois, il y avait un grand dortoir.
Oui.
C'est comme ça que ça se passait. Un grand dortoir dans lequel il y avait 30, 35, et puis une surveillante ou un surveillant par dortoir. Alors là, au lycée de la Source, il a été construit de telle sorte qu'il n'y a pas de dortoir, il n'y a que des chambres.
Mmh.
Des chambres de trois.
Oui.
Donc là, il n'y a plus de surveillance possible. Là encore, quand même, à la limite, et ça, c'est on le remarque souvent, la disposition des locaux a une influence directe sur la façon dont on conçoit la discipline.
Mmh.
Et c'est vrai que si vous construisez un grand dortoir de 30 personnes, bon, il n'y a pas de problème, vous mettez un surveillant, et puis vous retombez dans une discipline traditionnelle. Si vous construisez des chambres de trois, et vous êtes obligé de changer votre conception de la discipline.
Oui. Alors ça serait sûrement beaucoup plus difficile dans un lycée qui est conçu d'une manière enfin, plus traditionnelle.
Oui.
Ah oui. Oui. Ah, mais il est exact. Moi, je me souviens à Vendôme, je m'étais penché en détail sur ces problèmes parce que j'étais à la commission permanente. Le proviseur. On ne le croyait pas trop, mais on était méchants parce qu'il avait quand même un peu raison. Enfin, on voulait pousser un peu de l'avant, mais il répondait toujours que la disposition des lieux, et c'était vrai, ne lui permettait pas de faire ce qu'on lui demandait.
Mmh.
Il est certain qu'un dans un grand dortoir, on ne peut tout de même pas faire ce qu'on peut faire, par exemple, au lycée de la Source, avec des chambres qu'on peut considérer comme des chambres individuelles, finalement.
Mmh. Oui, c'était très intéressant. Madame Sancerre nous a fait tout voir.
Vous l'avez vu, oui.
Oui. C'est vraiment très intéressant. Bon, il y a là, vous voyez,
vous avez
ça nous arrive au bout.
Oui, ça a été
très... Non, il n'y a qu'une chose qu'on peut ajouter, si vous voulez, quand même, en conclusion, c'est que il est très difficile à l'heure actuelle de prévoir l'évolution, j'allais dire politique, parce qu'à la limite, c'est quand même un problème politique, de l'éducation nationale en France. Je veux dire qu'on peut assister à une remise en ordre progressive, sans grand heur, mais on peut encore assister à des explosions sanglantes.
Oui.
Je crois qu'il ne faut pas se cacher.
Oui.
On est dans une situation très incertaine. Alors évidemment, ça ne prendra plus du tout la forme que ça avait pris en mai 68. Parce qu'en mai 68, c'est l'université qui a donné le branle, mais ensuite, tout est venu se greffer dessus, le monde ouvrier, et puis un problème politique essentiel aussi. Alors moi, je crois que ça, c'est terminé. Je crois que les groupes gauchistes font une erreur lorsqu'ils pensent qu'il suffit de relancer l'agitation universitaire pour qu'aussitôt la France entière se dresse en état de révolution. Ça, je pense que c'est une erreur d'analyse politique même. Mais qu'il y ait encore des difficultés très graves dans l'enseignement, en particulier dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur, ça c'est très possible. Qui va se traduire sous forme de grèves dures, longues, ou même encore sous forme d'émeutes. Ça, c'est pas impossible. Et étant donné la situation très, très fluctuante et en fait l'absence vraiment de réformes, elles y sont les réformes, mais on sent qu'elles sont très molles. Enfin, y a pas de... On assiste plutôt à une reprise en main à l'heure actuelle qu'à autre chose.
Oui.
C'est quand même assez net. Regardez par exemple, le renversement de situation est assez spectaculaire. En mai 68, les deux grands meneurs universitaires, c'était Guesmard et Sauvageau. Guesmard a été arrêté avant-hier. Il ne s'est rien passé. Bon, il y a deux ans, vous faisiez une émeute dans Paris avec ça. D'ailleurs, il y a deux ans, De Gaulle n'a pas songé à faire arrêter ni Guesmard ni Sauvageau. Pourtant, ils en ont fait bien plus.
Oui.
Que maintenant. Eh bien, Guesmard a été arrêté il y a deux ou trois jours. Ça n'a pas bougé. Et ça n'a pas bougé parce que, effectivement, la situation a changé. La question a changé. Mais, ça, alors, sur ce plan-là, oui, ça veut dire que ça ne reviendra pas comme mai 68, mais on peut encore assister à des affrontements violents. Ceci dit, alors, si on peut se risquer quand même, moi, finalement, j'opterai à l'heure actuelle, je verrai plutôt une évolution, là, une succession de réformes, plutôt qu'une brutale mutation. Je crois que la brutale mutation, elle a été demandée et en même temps refusée, finalement, en mai 68. Il est certain, alors que j'ai dit, si Edgar Faure était resté, les choses auraient été sûrement beaucoup plus vite et plus satisfaisantes. Mais justement, Pompidou n'avait pas voulu garder Edgar Faure parce qu'il avait quand même d'autres idées. d'autres idées qui n'étaient peut-être pas fondamentalement différentes, mais qui étaient beaucoup plus prudentes. Il va aller beaucoup plus lentement. Alors s'il va trop lentement, je crois que de nouveau, ça explosera encore. Enfin, je ne sais pas, vous avez vu beaucoup de professeurs, peut-être, pendant votre séjour à Orléans, vous avez dû entendre des sons de cloche très différents.
Oui, là, c'est différent. L'autre jour,
en
école
Saint-Croix. Oui. Oui, une école que je connais bien aussi.
Oui.
Enfin, que je connaissais bien, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds. Mais enfin.
Et là aussi, c'était très intéressant. Il y avait plusieurs professeurs réunis, alors qu'ils...
Je crois qu'ils étaient quand même moins préoccupés, peut-être, par les événements de mai.
Oui.
Peut-être que c'est...
On n'a pas beaucoup parlé.
Moins touché, je ne sais pas. Non, peut-être pas.
Non.
Ça reste des événements de mai, reste quand même dans l'enseignement une rupture. Enfin, d'une part, je vous disais, la consécration d'un état de fait, c'est-à-dire que certaines pratiques ne sont plus possibles. Mais alors maintenant, c'est le problème de la reconstruction. En fait. Il y a eu de grands espoirs. Et puis, on sent que de nouveau, les choses ne sont pas sûres.
Parce qu'on a été... dans une CES, mais il y a d'autres membres de l'équipe qui ont parlé avec des professeurs de lycée, mais je n'y ai pas assisté, alors je ne sais pas trop.
Oui. Oh, il y a des dissensions terribles, vous savez, à l'intérieur du corps enseignant, et sur tous les plans. Vous avez une coupure très nette, à l'heure actuelle, entre conservateurs et... disons progressistes, si vous voulez, enfin, avec toutes les nuances que vous pouvez trouver entre les deux, d'ailleurs. Mais il est certain que depuis mai 68, vous avez dans des lycées des gens qui ne se parlent plus. Oui. Ah oui, uniquement pour raison politique.
Oui, politique, même...
pédagogique. Oui, mais enfin, finalement, à la limite...
Oui, c'est ce sont... Mais tu peux très bien voir des gens... Oui, non, mais alors là, je crois qu'il faut quand même bien dire les choses. Il y a des gens qui, sur le plan politique, sont très à gauche, et qui sont pédagogiquement très réactionnaires. Ah, oui, et puis, il y a des gens qui, politiquement, votent à droite, et qui sont, sur le plan pédagogique, très progressistes.
Oui.
Alors, vous voyez la complication qu'il peut y avoir. Des oppositions d'ordre politique et des oppositions, même à travers un même courant politique, entre des gens qui ont des optiques très différentes. Je crois que le monde enseignant est très, très divisé actuellement. Très.
Alors, actuellement, divisé, écorché vif, très susceptible, et qui n'a pas trouvé son équilibre, en fait. Puis alors, à l'intérieur des différents ordres d'enseignement, vous avez aussi des tensions terribles. Entre le primaire et le secondaire, par exemple, c'est bien connu. Si un professeur secondaire se permet de faire une critique à l'enseignement primaire, après tout, il est critiquable, tout comme l'enseignement secondaire, on ne verra pas le bien fondé de la critique, on verra simplement que c'est un professeur de l'enseignement secondaire qui se croit supérieur à un instituteur. Oui. Mais c'est très difficile d'arriver à se faire comprendre.
Oui, je pense que... Avec le CES, justement, on a touché...
Ben oui, c'est ça qui me fait dire ça, parce que dans les CES, ça arrive souvent.
Oui, parce que ils se demandaient, enfin, ils avaient l'air de croire qu'on leur reprochait plusieurs choses, ne pas former l'enfant pour...
Et puis vous avez la même chose dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, à tort ou à raison, d'ailleurs. Bien sûr, faut toujours voir les deux points de vue, n'est-ce pas ? Les gens d'un groupe voient aussi, veulent voir d'une certaine façon, les gens du groupe d'en face. Par exemple, les professeurs d'enseignement secondaire ont un complexe d'infériorité
par rapport à l'enseignement supérieur.
C'est très net.
C'est très net.
Oui.
Enfin, moi, je m'amuse bien parce que j'ai un pied dans les deux.
Oui, mon mari est professeur au lycée, mais donne des cours à la faculté,
Et finalement, c'est vrai, c'est faux, il y a des professeurs d'enseignement supérieur qui sont imbuvables. Et qui sont souvent responsables aussi de ce qui s'est passé en mai 68.
Mais par ailleurs, il y a dans l'enseignement
secondaire
des gens qui...
Bon. Puis réciproquement dans l'enseignement secondaire, il y a aussi des... Enfin, c'est dans le détail très compliqué. C'est un monde en pleine mutation. Vous avez vraiment une très grande variété de recrutement, de formation... de salaire aussi, et ça joue quand même à la limite, il faut bien le dire.
Ah oui.
Il faut bien le dire. Et ça ne fait que compliquer aussi les choses.
je vais arrêter là. Bientôt.